Nous sommes en compagnie de David Elbaz et on parle de la mort des galaxies. C'est une drôle de, comment dire, d'histoire que vous nous racontez finalement. Il y a peu de galaxies qui se forment aujourd'hui. Celles qui existent sont de moins en moins efficaces. Est-ce que l'univers est en danger ?
Alors, effectivement, on peut se demander quel va être l'avenir d'un univers qui s'éteint progressivement, dans le sens où ce qu'on appelle s'allumer ou être en vie, c'est donner naissance à des étoiles. Voilà. C'est une bonne question, d'autant plus qu'il y a un acteur qui a tendance à accélérer le mécanisme, qui est cette fameuse énergie noire, énergie sombre, qui provoque l'accélération de l'expansion de l'univers, qui n'a pas pour effet encore de disloquer le parc Montsouris où on est en ce moment, ni ou le système solaire, mais qui empêche la formation de groupes et amas de galaxies. Aujourd'hui, des groupes et des amas de galaxies qui seraient nés sans sa présence à cette énergie sombre ne vont pas naître. Et donc, normalement, la tendance naturelle de l'histoire de l'univers, ça serait une agglomération des structures qui deviennent de plus en plus massives. Et bien, depuis l'expansion accélérée de l'univers, qui a commencé il y a à peu près 6 milliards d'années, le moment où l'énergie sombre a dominé la composante énergétique de l'univers, ça, c'est interdit. Or, l'environnement des galaxies est un élément clé dans l'histoire d'une galaxie, parce que c'est cet environnement qui va provoquer des instabilités et qui va venir nourrir des galaxies via des fusions ou par des effets de marée où on provoque ces instabilités qui accélèrent la formation d'étoiles. Si ces mécanismes-là sont éteints, ça peut encore plus accélérer la mort des galaxies. Mais il reste 90% de gaz intergalactique qui n'a pas donné d'étoiles, donc beaucoup de sang pour donner vie à l'univers. Secondo, ne connaissant pas du tout quelle est la nature physique de cette énergie noire, il est tout à fait possible que demain, soit elle s'arrête de provoquer l'accélération de l'expansion de l'univers, soit elle se convertisse elle-même en matière ou autre, on n'en sait rien. Mais à l'heure actuelle, si on prolonge, disons de façon la plus simple et la plus logique, ce qu'on est en train de voir, on va vers une mort froide.
Une mort froide avec des îlots, parce qu'on peut imaginer que la force de gravité continue à dominer sur des groupes locaux de galaxies.
Ah oui, l'énergie sombre ne va pas disloquer ces îlots, mais ces îlots, avec leur quantité de gaz, vont finir par s'éteindre parce que le gaz aurait été converti en étoiles. Et puis, on n'aura plus que des petites étoiles relativement, entre guillemets, froides, mais qui vont moins chauffer leur...
Donc la mort de l'univers à l'échelle macroscopique, c'est la disparition des galaxies lointaines qui de toute façon sont emportées par l'accélération de l'expansion, donc elles disparaissent à nos yeux, et l'isolement donc de ces îlots. Mais à l'échelle galactique, on a compris qu'il y avait un moteur souvent qui était le trou noir supermassif à l'intérieur, qu'il y avait ensuite du gaz, des étoiles. Les étoiles ont des durées de vie relativement impressionnantes pour certaines. Que veut dire mort d'une galaxie à l'échelle de milliards d'années ?
Oui, en fait, on peut dire que de la même manière qu'un être humain est vivant parce qu'il respire et qu'il il convertit de l'oxygène en dioxyde de carbone, on pourrait mesurer, si on mettait un être humain dans une boîte, l'influx d'oxygène et puis ce qui sort en dioxyde de carbone. On dirait, bon, là, dans cette boîte, doit y avoir un être humain vivant. Si on prend une boîte dans laquelle on met une galaxie, on va caractériser sa vie comme étant le fait qu'elle va absorber du gaz et puis en faire de la lumière. Mmh. Et donc, la capacité de prendre du gaz et le convertir en lumière, ça va être ce qu'on appellera la preuve de l'activité de vie d'une galaxie. Aujourd'hui, une galaxie elliptique est une galaxie dont la flamme vient d'étoiles allumées par un gaz qui lui a été donné il y a très longtemps. Donc la boîte est fermée, elle ne prend pas de gaz, elle n'a pas de nouveau gaz interstellaire qui est converti en étoile, et donc elle ne fait pas de nouvelles étoiles, de nouvelles lumières. Donc elle n'est pas capable de générer une lumière nouvelle. En ce sens, on parle, un peu par abus de langage, de galaxie morte. Alors, est-ce que toute galaxie a pour destin de mourir de cette manière ? C'est possible. Quand on est optimiste, comme je le suis, on se dit qu'on est tellement loin d'avoir compris ce qui se passait que c'est y a certainement des mécanismes qui vont continuer à allumer des galaxies pendant encore longtemps.
Mais pour poursuivre votre raisonnement, toujours en restant dans la boîte fermée, notre galaxie par exemple, la Voie lactée, c'est quoi sa mort ? Encore une fois, je vous pose la question, est-ce que c'est les étoiles qui s'éteignent les unes après les autres ?
Oui, la Voie lactée aujourd'hui, elle est en train de convertir du gaz en étoile. Donc elle respire d'une certaine manière.
Donc elle vit.
Elle vit. Donc maintenant, elle a à peu près 10% de gaz interstellaire. Elle pourrait éventuellement s'éteindre quand on aura consommé tout ce gaz interstellaire. Seulement, on voit ce qu'on appelle des courants de gaz intergalactiques qui la relient, des espèces de ponts de matière à des galaxies naines proches de nous, comme vous le disiez tout à l'heure, certaines qu'on connaît, d'autres dont on a appris l'existence que très récemment, et certainement d'autres viendront plus tard. Et donc elle est nourrie par l'accrétion de galaxies naines qui sont relativement riches en gaz, qui viennent la nourrir en continu. Et le réservoir de ce genre de galaxies-là peut être énorme. Et donc ça peut comme ça durer pendant plus de 10 milliards d'années. Donc pour une galaxie qui est environnée de réservoirs de gaz globulaires sous la forme de petites galaxies et puis de ponts de matière qui participent à cette nourriture de la galaxie, les choses vont bien.
Notre propre étoile, le Soleil, disparaîtra, en tout cas s'éteindra dans l'ordre de grandeur, c'est 5, 6, 7, peut-être milliards d'années-lumière. La durée de vie des étoiles est limitée de cette façon. Les étoiles plus petites vivent plus longtemps. Dans 20, 30, 40 milliards d'années, ça devrait être plié, comme on dit.
Ah, alors, dans 40 milliards d'années, là, effectivement, s'il n'y a plus de réservoirs qui tombent, parce que si ces galaxies naines s'épuisent au bout d'un certain temps, tant qu'elles seront là et qu'elles viendront nourrir la Voie lactée, on donnera naissance à de nouvelles étoiles qui viendront régénérer la galaxie en étoiles. Si ça s'arrête et si on les laisse mourir de leur belle mort, là effectivement c'est ce qu'on pourrait appeler une mort froide, c'est-à-dire que progressivement on n'aura plus d'étoiles massives chaudes qui vont naître, et donc la masse moyenne de la population d'étoiles de la Voie lactée va devenir de plus en plus petite, la température moyenne de surface d'étoiles de plus en plus basse, jusqu'à arriver à un univers froid. On aura terminé de convertir, d'utiliser la nucléosynthèse pour convertir de la matière en lumière.
Et les galaxies ne seront plus que des cimetières d'étoiles à neutrons, alors ?
Oui, mais vous savez, il y a beaucoup d'autres mécanismes qu'on ne maîtrise pas qui sont en jeu dans l'histoire des galaxies. Donc bien sûr, quand on fera cette émission, revoyons-nous dans 40 milliards d'années par exemple pour en parler, je suis sûr que on aura l'occasion de discuter d'un certain nombre d'acteurs dont on avait complètement sous-estimé le rôle, comme par exemple le fait que lorsqu'une étoile meurt, elle devient une étoile à neutrons, mais la matière qui l'a constituée est éparpillée dans le gaz interstellaire. Et à son tour, elle va participer à la génération de nouvelles générations d'étoiles.
Oui.
Et donc, des étoiles vont naître des cendres des précédentes.
Oui.
Puis, autour de ce réservoir de naines qui nourrissent la Voie lactée, il y a aussi, on pense, des ponts de gaz à plus grande échelle qui peuvent aussi continuer à nourrir les galaxies. Et donc, par la simple réutilisation des cendres stellaires par le fait qu'on ne voit pas 90% de la matière dans l'univers, on peut imaginer que d'ici 40 milliards d'années, on aura continué à former des étoiles. Peut-être même que des galaxies éteintes se seront rallumées. On voit des galaxies éteintes, entre guillemets mortes, hein, qui elles-mêmes absorbent des galaxies qui n'étaient pas très faciles à voir parce qu'elles n'avaient pas beaucoup d'étoiles et beaucoup de gaz, et qui, en tombant dans la galaxie morte, la nourrissent en un gaz frais, et qui viennent donner naissance à des étoiles, et puis qui viennent nourrir le trou noir central de cette galaxie éteinte, qui va faire des jets, et qui va à son tour provoquer des instabilités dynamiques, etc. Les halos de gaz chaud autour de ces galaxies qui font bouclier pour empêcher un autre gaz de tomber ont un temps de refroidissement qui est relativement long, mais pas infini. Et donc, ils vont eux-mêmes se refroidir, eux-mêmes vont s'effondrer dans le cœur des galaxies, et donc à la fois nourrir la naissance de nouvelles générations d'étoiles, et ils ne vont plus empêcher le gaz de tomber dedans. Et donc, on est peut-être simplement en train de vivre une phase froide de l'univers entre deux phases chaudes, par exemple. J'en sais rien, mais c'est une possibilité.
Et en même temps, vous nous avez dit au début de cet entretien que vous étiez surpris par l'absence, entre guillemets, d'efficacité du système. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gaz et finalement, il y a peu d'étoiles qui se créent.
Oui.
Donc c'est un peu un paradoxe.
Oui.
Aujourd'hui, c'est assez inefficace entre guillemets au sens naturel, et en même temps je dirais le vent d'optimisme qui vous anime vous fait dire que c'est peut-être une période simplement.
Oui, tout à fait. Oui. C'est, l'univers a été inefficace au cours des derniers 13,7 milliards d'années à donner naissance à des étoiles. Alors, est-ce qu'il réserve, se réserve pour le bouquet final? Allez savoir pour, qu'est-ce qu'il lui prend.
Dans 100 milliards d'années, je vous pousse à la fiction. Allez, toutes les réserves seront épuisées. Le rôle des trous noirs dans les galaxies peut-il avoir une importance?
Bon, les trous noirs progressivement absorbent la matière qui est autour d'eux et à terme vont finir par absorber de plus en plus de matière. Alors quand on fait le calcul, c'est quand même là bien plus grand que 10-40 milliards d'années pour qu'un trou noir mange une galaxie entière. Ce sont des durées extrêmement grandes. Alors après, on a aussi un mécanisme de rayonnement par le processus mis en évidence par Stephen Hawking, des trous noirs qui pourraient rendre un peu de leur matière. Mais le mécanisme le plus efficace dans l'action des trous noirs sur l'histoire des galaxies, c'est pas tant le fait qu'ils vont manger une grosse fraction des galaxies, parce que ça c'est sur des échelles de temps qui sont vraiment très grandes par rapport à l'âge de l'univers, mais c'est un mécanisme double auquel on fait appel de façon paradoxale au début et à la fin des galaxies, qui est d'une part le fait que lorsque de la matière tombe sur le trou noir, elle provoque des jets de matière qui à leur tour peuvent donner provoquer de la turbulence qui va accélérer la naissance d'étoiles, et puis au bout d'un certain temps cette activité du trou noir peut éteindre une galaxie. Alors ça, on n'a jamais vraiment vu de galaxie s'éteindre, et parce qu'on cherche l'acteur qui pourrait tuer les galaxies, mais on a vu des trous noirs entre guillemets tuer des amas de galaxies. Alors je m'explique. Quand on regarde un amas de galaxies, au lieu de voir des étoiles dans du gaz, comme c'est dans le cas dans une galaxie comme la Voie lactée, on voit des galaxies dans du gaz, c'est-à-dire une galaxie à plus grande échelle, où l'unité élémentaire n'est pas une étoile mais une galaxie, et il y a du gaz intergalactique au lieu du gaz interstellaire. Au centre des amas de galaxies, la densité est telle, avec les conditions dans lesquelles se trouve le gaz au centre, que le gaz devrait se refroidir en moins d'un milliard d'années. Et il se refroidir à des températures tellement basses qu'il devrait atteindre des densités et des températures telles qu'il devrait donner naissance à des étoiles. Or, on n'observe jamais de température aussi basse que celle qu'il devrait atteindre au cœur des amas de galaxies. On s'est donc demandé pourquoi ce refroidissement n'était pas présent et qu'est-ce qui l'empêchait. Et là, on a vu des blobs, des bulles dans le domaine de la radio qui étaient provoquées par le balayage du cœur de l'amas par le jet de l'objet central, qui est un noyau actif, un quasar, une radiogalaxie, qui envoie de la matière et qui, ce faisant, chauffe totalement le milieu intergalactique. Et là, c'est un mécanisme qui a beaucoup plu aux astrophysiciens, parce qu'on avait là mis le doigt sur un, entre guillemets, tueur de galaxies, ou tueur de formation d'étoiles, puisque ce jet-là provoque le chauffage du gaz et qui l'empêche donc de se refroidir et de donner naissance à des étoiles. Donc paradoxalement, on observe à l'échelle de galaxies individuelles des jets qui, lorsqu'ils frappent du gaz, font des ondes de choc qui provoquent la naissance de nouvelles étoiles. On voit même des galaxies qui ont la forme de cigares, qui ont une forme complètement linéaire et le long de leur jet. C'est ce qu'on appelle l'alignement optique radio, radio-optical alignment, et ça a été pendant très longtemps pour les astronomes une source de mystère, parce qu'on s'est dit, ça suggère que les étoiles sont nées le long des jets radio, et c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc paradoxalement, à l'échelle d'une galaxie, quand on voit un noyau actif, il est très souvent accompagné de formation d'étoiles qui est accélérée par le... Et puis à plus grande échelle, dans le cœur des amas de galaxies, lorsque le jet sort, parce que c'est très collimaté, un jet, donc ça a peu d'effet à l'intérieur d'une galaxie, mais lorsqu'il sort et qu'il commence à tournoyer là-dedans, il empêche la naissance des étoiles. Alors on s'est dit peut-être qu'il y a une phase où il accélère et une phase où ultérieurement il va éteindre les galaxies. Et donc c'est peut-être lui qui fait que les étoiles sont nées très rapidement, très tôt dans l'histoire de l'univers, dans certaines galaxies massives, et puis qui aujourd'hui éteint.
C'est un beau spectacle, l'univers.
Ah oui, oui, oui. Oui, on a tendance à penser que... l'univers, le ciel est inchangeant, et puis dès qu'on regarde un peu mieux, on s'aperçoit que c'est extrêmement violent et très changeant.
Et on a du mal à imaginer que ça s'arrête un jour.
Oh oui, ça c'est... Oui, on a du mal à imaginer, oui.
Merci David Elbaz.
Merci.
Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment pour un prochain épisode.